Europe 1, Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon dimanche, 20e jour de confinement en France. Comme il est impossible de se promener à l'extérieur, c'est par téléphone que nous partons en balade jusqu'à midi et demi en compagnie d'Albert Dupontel, Claude Habib, Rudy Ricciotti, Yaël Naïm, Éric Dupont-Moretti, Anne Berest, Pierre Gagnère, Sylvie Le Bihan et Fabrice Midal, le fondateur de l'École Occidentale de Méditation. Et nous écouterons quelques chansons prémonitoires qui nous parlaient du confinement sans le savoir et celles qui commencent à sortir un peu partout dans le monde sur le Covid-19. Allez, c'est parti.
Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très
forts.
Cela signifie que les regroupements extérieurs ou amicaux ne sont plus permis.
Et j'appelle tout de suite Albert Dupontel, l'acteur et le réalisateur d'Enfermé dehors et de 9 mois ferme. Allô, Albert Dupontel, bonjour. Est-ce que vous êtes enfermé dehors ou enfermé dedans, vous ?
Je suis enfermé à la fois dedans et dehors, devant la tristesse de la situation. Voilà. Donc, ça fait du bien d'entendre une voix humaine.
Vous êtes loin de Paris ?
Oui, dans le sud de la France. Mon cas personnel n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qui se passe, par contre, est un petit peu affolant. Et la concrétisation de la nécessité, urgemment, de changer de comportement. Je ne sais pas si les choses vont évoluer dans ce sens-là quand il y aura la fin du confinement à suivre.
Oui, qu'est-ce que vous préconisez ?
Quand Macron dit on est en guerre, on est en guerre contre nous-mêmes. Et c'est contre ça qu'il faut lutter, voilà, cette folie consumériste sur laquelle on surfe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui s'est encore accentuée avec la mondialisation, nous amène à tout d'un coup à ce que la nature, en quelque sorte, nous envoie des signaux très alarmants sur ce qui va se passer si on continue à se comporter comme ça. Donc ça peut être un mal pour un bien, cette tragédie. Si derrière ça, il y a vraiment une prise de conscience à la fois collective et de nos dirigeants qui ne sont pas formés pour ça, malheureusement. Ils sont formés pour les politiques libérales, ils sont formés pour l'économie. Mais s'ils commencent à raisonner par l'écologie, on a des chances de s'en sortir. Vous voyez, si le ministère de l'écologie est au centre de tout, on a des chances de sortir de ce genre de raisonnement. C'est l'homme face à l'homme, là, en ce moment-là. Il n'y a même pas d'ennemis, il n'y a même pas de méchants, comme il y a la Seconde Guerre mondiale, c'était presque trop simple. C'est notre ego là, qui est en train d'être mis en question, notre façon de faire, façon de vivre, façon de penser. Ça commence dès l'école et ça se prolonge dans la suite, quoi. Donc, c'est ça qui me fait peur pour la reprise après le confinement et qui m'interpelle beaucoup dans la crise qu'on traverse en ce moment, quoi.
Est-ce que le pays tel qu'il se dessine aujourd'hui, la nature, paraît-il, reprend ses droits, il y a du silence, il y a plus d'embouteillage. Est-ce que ça vous plaît tel que c'est ?
Ça me plairait si c'était spontané, naturel et une démarche quasi civique et humaniste et citoyenne. Là, c'est une tragédie quand même. Et on en est à 5000 morts, je crois, en France. Donc, avant le confinement, j'ai assisté à quelques jours comme ça de désertification. Il y avait un côté vraiment tragique. Donc, je peux pas dire que le bien-être, le confort de se déplacer est intéressant puisqu'il est en train d'une tragédie phénoménale. Mais c'est la preuve, quand la nature reprend ses droits, c'est déjà la preuve que la nature a une résilience qui est phénoménale. Et pour peu qu'on l'aide et qu'on lui laisse une chance, elle va reprendre des droits et nous expliquer quelles sont nos limites et quels sont son territoire. Vous voyez? Et donc ça, oui, voir des dauphins à Venise, voir des quand je suis descendu dans les Cévennes, il y a du gibier partout. Enfin, c'est assez étonnant ce qui se passe. Ça, c'est la nouvelle, on va dire, positive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire dans le comportement humain. Encore une fois, c'est une question d'éducation, de règles, de santé, d'hygiène. Tout doit être mis en question. Tout notre système de fonctionnement doit être mis en question. Vous voyez, c'est putain de compétition dans laquelle on nous met dès le départ à l'école. Il faut arrêter de raisonner comme ça. Il y a une phrase de Laborie qui dit « l'intelligence se fout de la compétition ». Et c'est très vrai. Voilà. Et là, on n'est pas intelligent depuis 30 ou 40 ans. Depuis la mondialisation, on n'est pas intelligent. Et là, on est en train de le payer, quoi.
Vous dites ça aussi parce que vous n'étiez pas terrible à l'école.
Oh, c'était pas si mal que ça. J'ai fait 5 ans de médecine, vous voyez, donc c'était quand même pas si mal. Mais justement, juste à temps pour comprendre ce que c'était que l'essentiel dans une vie humaine, quoi. C'est être en bonne santé, c'est un miracle. C'est des choses qu'on oublie complètement. Vous et moi, on est des miracles biologiques. Peut-être plus moi que vous. mais c'est vrai qu'on nous apprend pas ça. À l'école, on nous apprend très vite à être en compétition les uns avec les autres. Il y a les bons élèves, les mauvais élèves, etc., etc. C'est une erreur. L'intelligence n'a rien à voir avec la société, en quelque sorte, recrute dès l'école. L'école, c'est le modèle de la société. Et c'est l'inverse qui devrait se passer. La société doit se mettre au service de l'école. Il y a des solutions. Aujourd'hui, il y a des écoles alternatives qui prendre des comportements différents. Et si vraiment, par exemple, le ministère public de l'Éducation nationale se consacrait aussi à ces écoles alternatives, dans 20 ans, vous avez une génération de gamins qui raisonne totalement différemment, qui est plus altruiste, qui est moins avide, qui est plus penché sur l'écologie, le partage, etc., partage des richesses, etc. Donc, il y a vraiment des solutions humaines. Mais est-ce qu'on va voir, est-ce qu'il va y avoir des leaders assez forts, assez compétitifs ou convaincants pour nous changer de comportement? C'est là, et je suis pas vraiment sûr que ce soit le cas des gens qui gouvernent actuellement, qu'on, encore une fois, on peut même pas leur vouloir. Ils ont pas du tout été formés pour ça. Pas du tout, du tout. Ils raisonnent que par l'économie. Et c'est une tragédie. La crise qu'on traverse en ce moment, c'est une crise écologique. C'est pas une crise économique, quoi. Voilà.
Néanmoins, là, on a mis l'économie sur pause et on a privilégié les vies humaines sur l'économie.
Oui, mais il a fallu 5000 morts et une crise mondiale d'épidémie pour comment ça raisonner comme ça. Ce qui se passe en ce moment, des tas de gens, dont certains vous avez interviewé comme Gaël Giraud, ont des gens qui nous ont prévenus de ça depuis plusieurs décennies, à travers des essais, des documentaires, des bouquins, c'est des gens compétents, des experts, des scientifiques, tout le monde annonce ce qui va se passer. Il paraît que Bill Gates avait mis au point un algorithme qui prévoyait une épidémie en 2015, il s'est trompé de 5 ans, mais il ne s'est pas trompé sur l'idée même d'une épidémie.
Il avait donné une conférence TED en 2009 pour dire que c'était le plus grand danger qui nous guettait, c'était une pandémie mondiale et qu'on ne s'y était pas du tout préparé, comme on s'était préparé jadis à la guerre nucléaire, par exemple.
Voilà, c'est ça qui est terrible, quoi. C'est ce que je vous dis, c'est une guerre contre nous-mêmes, où les comportements changent, il y a une prise de conscience collective qui est déjà là depuis longtemps, hein, mais qui n'est pas exprimée dans la gouvernance de ce pays et de beaucoup de pays démocratiques. Cette idée-là n'est pas exprimée. Les gens qui sont au pouvoir ne sont pas des gens qui sont formés par ça, pour ça, en tout cas, ça c'est évident. Ils ne raisonnent que par l'économie. Et aujourd'hui, je suis sûr qu'ils passent beaucoup de temps à réfléchir à la reprise après le confinement, plus qu'à la crise, les origines de cette crise sanitaire mondiale, quoi. Parce qu'il y a des vraies origines, quoi.
Vous croisez des gens quand vous allez faire vos courses, vous les trouvez comment ?
Il y en a qui sont un peu trop décontractés, qui n'ont même pas de masque ni gants. Donc ça, je trouve ça un peu inconscient. On reste prudemment à 1 mètre de distance. En fait, oui, c'est ça. Faire des courses est peut-être le truc le plus angoissant en fait dans ma journée. Je dirais une fois par semaine avec les caddies. Mais voilà, il y a 2 jours, j'ai pris des risques. J'ai passé 3 heures à remplir les caddies pour mes gamins. Ça nous ramène à des choses assez essentielles. En même temps, je partage des moments avec mes mômes qui sont super. On est forcé d'être un peu près chez les uns des autres et de se concentrer un peu sur notre essentiel. Donc ça, il y a plein de signaux qui pourraient être positifs s'il n'y avait pas cette tragédie derrière.
Ben, je vous remercie, Albert Dupontel. Je vous souhaite le meilleur et j'espère à bientôt.
Ben, c'est ce que je voulais vous dire. J'espère vous bientôt en chair et en os. Prenez soin de vous. Merci.
Vous aussi, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, Albert.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Clase humo. Ay, viene el coronavirus.
Esto es demencia.
DJ Dan. Ay, viene el coronavirus. Viru, 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 viru. Ay, viene el coronavirus. Viru, 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 viru. Ay, viene el coronavirus. Demencia.
Allô, Claude Habib. Bonjour.
Bonjour, Frédéric.
Vous êtes l'auteur de Galanterie française, du goût de la vie commune, où vous faisiez l'éloge du conjugalisme. Alors, est-ce que c'est bon pour le conjugalisme, le confinement ?
Il n'y a pas de réponse générale. C'est impossible. Regardez la variété des gens, ce n'est pas pareil d'être, je ne sais pas moi, coincé avec Houellebecq ou avec Georges Clooney.
Oui, c'est sûr.
C'est extrêmement variable. Donc, ça dépend vraiment de la personne avec qui vous êtes enfermé.
Alors, vous, comment est-ce que vous vivez cette épreuve, cette expérience ? Je ne sais pas quel nom lui donner.
Bah, écoutez, moi, je suis professeur émérite, ce qui veut dire professeur retraité. Bon, donc,
à la faculté, vous étiez à la Sorbonne Nouvelle.
Oui, j'étais à la Sorbonne Nouvelle. Donc, bon, je ne fais pas partie des gens qui sont persécutés par le télétravail. Je crois que le télétravail, c'est vraiment une épreuve pour ceux qui commencent, ceux qui s'y mettent et qui découvrent l'informatique dans toute son horreur. Donc vraiment, j'ai des conditions de vie, je dois dire, idéales. Je n'ai pas à me plaindre, ça va très bien.
Alors, vous aviez écrit un livre sur la prostitution. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de prostitution. Il paraît qu'il y a...
Sauf celles qui ont un régulier dans leur immeuble. Je ne vois pas comment elles peuvent se débrouiller. Oui,
ouais, il y a, paraît-il, plus de drogue sur le marché. On entre dans un nouveau monde.
Je ne sais pas. Ça va dépendre de la durée. C'est atroce de penser à tous ces gens qui se sèvrent là. Il doit y avoir des tortures. Il doit y avoir vraiment des états de manque auxquels... On ne pense pas, mais enfin, c'est toujours pareil, une société, c'est compliqué. Ce que je crois, c'est que cette épreuve, si on la vit en se disant « c'est l'occasion d'être à jour ». C'est l'occasion, vous savez, comme moi depuis l'école primaire, je suis pas à jour. J'ai toujours des trucs que j'aurais dû faire. Là, on peut se rattraper. Donc, il y a des signes, quoi. Quand on voit que les gens achètent beaucoup de peinture, on se dit, bon, ben, il y en a qui ont le courage de repeindre leur volet. Bon, est-ce qu'il y en a qui vont se dire, je me reconvertis, j'arrête la prostitution ou je fais autre chose? Est-ce que ça va inciter à un mieux-être? C'est tout ce qu'on peut espérer. Mais c'est vraiment difficile parce que en ce moment, il y a tellement de poids, d'angoisse. L'angoisse au début était abstraite et là, elle devient vraiment proche. On commence à connaître des gens qui sont malades, qui sont des proches, des gens qui sont morts aussi dans des cercles pas trop loin. Donc, c'est difficile. C'est une occasion. C'est certain que c'est une occasion. Tout ce temps immense qui est donné. Enfin, l'espace nous est retiré, le temps nous est donné. Oui, qu'est-ce qu'on pourra en faire? Vraiment, je pense que aussi bien cette épreuve était inimaginable il y a un mois ou deux, aussi bien les conséquences morales de cette épreuve sont inimaginables.
Mais en même temps, il y a tout. Vous savez que les Français ont tous un manuscrit dans leur tiroir. Il paraît que beaucoup, beaucoup sont en train de l'écrire, justement. Peut-être qu'il faut plaindre les éditeurs qui vont recevoir ensuite des centaines, des milliers de manuscrits. Déjà qu'on se plaint qu'il y a trop de romans de la rentrée, mais alors la rentrée prochaine, ça risque d'être terrible.
Ah bah oui, lire, écrire, c'est vraiment les solutions de ce temps-là. Hein. Donc, bien sûr que les gens en profitent pour... Mais c'est pas mal, ça. Ils se mettent au net, ils voient les limites de l'imagination, ils voient aussi la réaction à l'épreuve. Il y a des gens qui veulent tenir un journal de confinement plutôt que de se lancer dans des romans, et ça, c'est pas mal. Enfin, moi, j'aime bien que les gens aient un rapport avec et une vie intérieure. Donc, l'écriture, ça sert à ça. Bon, les éditeurs, vous savez comment ils lisent, hein, ils lisent en diagonale, ils lisent ce qu'un tel leur a dit de lire. Donc, je pense qu'ils feront le tri comme ils font d'habitude.
Qu'est-ce qui vous manque à vous?
Qu'est-ce qui me manque? Le dehors, vraiment sortir. Vraiment, c'est merveilleux, l'heure auquel on a droit à Paris. Où on voit bon, ces images absolument magiques. Le premier jour, c'était un rêve. Vraiment, je ne croyais pas que dans mon temps de vie, je verrais un truc pareil. Et c'était onirique. Là, on s'habitue.
Vous parlez de la beauté de Paris, tout à coup, sans le monde, sans les touristes, sans les voitures.
Moi,
ça redevient photographique.
Ah oui, non, mais c'est inimaginable. C'est un décor de rêve. Et puis, on pense au fric que les mecs vont dépenser pour recréer ça. Au cinéma, quand ça sera fini, pour couper la circulation, ça va être terrible. Donc, non, c'est une jouissance. En même temps, ce qui m'a frappée, c'est que mes copains et mes copines qui vivent seuls ont au contraire une détresse de ces rues-là. Ils disent, mais c'est affreux, les rues où on ne voit personne. Et je pense que pour les gens qui vivent seuls, le visage entreaperçu, souriant, vous voyez, ce petit contact quotidien est très important, beaucoup plus que je ne le pensais. Parce que quand moi je disais ma jubilation, je tombais mal, quoi. Les gens, ça leur faisait douloureux, ce vide.
Sans doute. Est-ce que vous faites vos courses?
Ouais, je fais mes courses et j'aime pas ça. Ça, c'est le moment où il y a le plus de contact.
Oui, mais c'est l'occasion de sortir, justement, d'aller à l'extérieur.
Bah, on a une heure par jour, hein, donc on a une heure pour courir. Et puis les courses, c'est vraiment le vis-à-vis. On voit la bonne femme qui tâte les melons, qui va humer les melons en ces temps de coronavirus. C'est monstrueux, comment peut-on? Donc là, il y a vraiment le... Rousseau, il a dit un truc, il a dit « La laine de l'homme est un poison pour l'homme ». Donc une fois de plus, il avait tout anticipé, sauf les pangolins. Il y a vraiment là, dans la proximité imposée dans le supermarché du coin, quelque chose de très pénible. Je trouve que d'ailleurs, Picard surgelé fait beaucoup mieux les choses.
Pourquoi?
Parce que c'est très, très strict, enfin, dans le Picard surgelé de mon coin.
Personne n'aurait l'idée d'aller renifler les surgelés, de toute façon.
D'abord, on les flaire beaucoup moins, puis ensuite, c'est 5 personnes dans la boutique. Alors, il y a un videur à l'entrée, et des queues qui s'allongent démesurément, et on est... dans un Picard vide où on a le droit d'être qu'un seul sur un bac. Enfin, c'est très, très organisé, mais ils ont raison.
Est-ce que vous applaudissez les soignants, le personnel soignant à 20h tous les soirs?
Écoutez, non, et je me dis, il faut que je le fasse, mais à chaque fois, je regarde Arte Journal, et bon, oui, il faudrait que... faudrait absolument que je les applaudisse, parce que s'ils disent que ça leur fait du bien, eh ben, allons-y. Encore que je suis un peu loin de Pompidou, donc je ne sais pas s'ils m'entendraient. Mais oui, non, c'est sympathique. C'est très sympathique.
Merci, Claude Habib, et je vous souhaite un très bon confinement, et j'espère à très vite.
À vous de même. Au revoir, Frédéric.
Au revoir. Et l'on écoute tout de suite une première chanson prémonitoire qui parlait du coronavirus et du confinement sans le savoir. C'est « Déjeuner en paix » de Stéphane Escher.
Europe 1, 11h30, Frédéric Taddeï.
J'abandonne sur une chaise les chounelles du matin. Les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. J'attends qu'elles se réveillent et qu'elles se lèvent enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elles prennent. Cette fois, je ne lui annoncerai pas la dernière hécatombe. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin n'est ni rose ni honnête pour la peine. Est-ce que tout va si mal? Est-ce que rien ne va bien? L'homme est un animal, me dit-elle. Elle prend son café en riant, elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait enfin, si je le permets, déjeuner en paix. Oui, déjeuner en paix. Les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. Crois-tu qu'il va neiger? Me demande-t-elle soudain. Me feras-tu un bébé pour Noël?
C'était Stéphane Escher en 1991. Aujourd'hui, nous sommes des millions qui aimerions bien déjeuner en paix. J'appelle maintenant Rudy Ricciotti, l'architecte du MUCEM à Marseille, du Stade Jean Bouin à Paris, du musée Jean Cocteau à Menton, de la bibliothèque humaniste à Célestat, des lieux qui sont aujourd'hui fermés comme tous les bâtiments publics. Allô Rudy Ricciotti, bonjour, comment allez-vous?
Bien et vous Frédéric Taddeï, ça va?
Pas mal, pas mal, vous n'en avez pas marre?
Non, moi je me régale finalement, mais bon... on développera ça dans la conversation.
Alors, qu'est-ce qui vous frappe le plus aujourd'hui cette période de confinement?
Alors, ce qui me frappe d'abord, c'est l'exil, l'exode de la campagne, ce qui est un élément nouveau, c'est-à-dire d'un seul coup, c'est un peu la fin de la mythologie urbaine. La ville sera en crise et la ville témoignerait de l'insécurité, alors que l'éloignement, la campagne, le monde rural témoignerait de sécurité. Il y a une inversion des. C'est un nouveau paradigme. C'est un langage universitaire un peu simple pour dire que la distance nous sécuriserait. C'est tout à fait nouveau. Après, ce qui me fait plutôt rire, c'est l'inondation qu'on a sur le téléphone portable de messageries diverses. Alors évidemment, des vidéos à la con, semi-porno, semi-sportive, semi-lucide ou semi-cynique, on en reçoit des wagons.
À quoi vous faites allusion?
Bon, j'en reçois tellement, mais... Après, non, dans la catégorie des mystiques, il y a par exemple la messagerie de type Dalai Lama, voilà, qui viendrait nous rappeler notre piètre condition d'humain, de mauvais humain, finalement. Ou alors, il y en a une qui circule, c'est celle d'une cinéaste qui constate l'éloignement de la nature et donc qui nous culpabiliserait, nous désignerait du doigt. Et que donc, finalement, c'est le doigt de Dieu, en même temps, le corona. Et puis, qu'en profite dans la foulée pour s'attaquer aux femmes du Festival de Cannes qui s'habillent comme des putes dans le Dixit. Ça, c'est le message. Je ne me rappelle plus le nom de la cinéaste, mais c'est celle qui avait fait « Trois hommes et un couffin », je crois, un truc comme ça. Et puis, dans la même messagerie, on voit aussi régulièrement la haine des marchés financiers qui aussi sont responsables du corona, bien sûr. Oubliant au passage que le CAC 40 des meilleures entreprises françaises, c'est 3 millions de salariés, tu vois, étendu aux familles, ça fait 12 millions de Français. Je veux dire, il y a une espèce de malestrome, de folie collective, de manque de visibilité qui est assez effrayant.
On a besoin de coupables, hein, peut-être, dans cette époque.
Oui, on cherche des coupables, et puis en même temps, on sent que je me dis que là, je pense que le boboïsme va s'effondrer tellement il fonctionne en structure monomoléculaire comme l'huile qui tombe par terre. On voit au travers des messages génériques que la tendance, c'est pour le premier de l'an, la tendance, c'est, vous voyez, des messages, par exemple, comme le premier de l'an, bonne année. C'est des messages très abstraits, très lumineux, bonne année, et qui sont envoyés à tout le répertoire. Alors maintenant, c'est vous allez bien. Alors, on ne sait pas si ça s'adresse à quelqu'un qui est célibataire, en couple, en tribu, s'il y a le tutoiement, le vouvoiement, mais on sent que c'est balancé au demi-numéro de téléphone, tu vois. Vous allez bien. Moi, je réponds bien, de manière énigmatique, et rien d'autre. Alors, je reviens au bobo, là, quand même.
Vous cherchez des coupables, alors.
Non, moi, je ne cherche pas des coupables. J'observe avec un déficit de philosophie et même un déficit d'empathie terrible. J'imagine le scénario aujourd'hui. Maintenant, on est assis en tailleur sur un vieux tapis. Il y a la gamelle avec l'herbe à chat, le chat qui est sur le couffin avec le vieux tissu orange des parents. On est entre zen, vegan, etc. avec l'option pétard. Et là, on se dit qu'on assiste à un regain de mysticisme à bas prix, de ce qui est disponible un peu sur les rayons toujours performants d'Édouard Leclerc, hein, sur les rayons culture d'Édouard Leclerc, à bas prix. Il se dit, mais putain, mais que devient la France? Voilà. Donc, je ne désigne pas de responsable, mais je me dis, quand même, pour un seul petit fait dramatique, certes, mais qu'est-ce que ça serait si on était vraiment en guerre? Qu'est-ce qui se passerait, hein?
Et vous, alors, qu'est-ce que vous faites?
Moi, chez moi, qu'est-ce que je fais? D'abord, j'essaie de me reconstruire physiquement, de faire un peu de sport, parce que j'ai la chance d'avoir un gymnase, donc de faire un peu de musculation, un peu de sport, pour essayer de me reconstruire. Sinon, je mange beaucoup, je bois beaucoup. En fait, je ne baise pas beaucoup, ça c'est un grand paradoxe. On pourrait se demander, avec le temps libre, si on peut augmenter son activité sexuelle, mais non. Pas davantage. Je dis que dans ce privilège du temps très disponible, s'il y avait une option avec un bouton pour pouvoir rester dans le confinement, je serais assez preneur. Voilà.
Alors c'est assez drôle parce que là, tout à coup, on a l'impression que vous éloignez avec le téléphone et que vous revenez. Déjà, on est dans une sorte d'espace-temps hein, bizarre qu'on ne connaît pas.
C'est parce que je bouge avec le téléphone portable, c'est pour ça.
Oui, c'est pour ça. Bon, j'espérais que ce soit quelque chose d'un peu...
Non, plus... madame, vous savez quoi ? Il y a ma femme, Myriam, il y a un côté qui me dit pourquoi. Ça veut dire que tu ne baisses plus qu'une fois par mois. Qu'est-ce que tu dis aux auditeurs là ?
Oui, bah, écoutez, le confinement, finalement, nous encourage à faire des confessions. Il faut pas...
Non, mais le confinement, ce qui est certain, c'est qu'on pensait avoir beaucoup de temps libre. Et en fait, le temps manque davantage, en réalité. On n'arrive pas à remplir les journées qui sont très courtes, moi, je trouve.
Ah oui, à ce point-là.
Ah oui, 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 c'est fou, hein. À partir du moment où on commence à vouloir faire du sport, jardiner, et bon, ben, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps, voilà. Sinon, vous voulez quoi, que je fasse un peu d'intello, je lis Barbé de Révili, je vais aller le finir. Je vais se régaler.
J'ai remarqué que vous parlez toujours de Barbé d'Aurevilly dans toutes vos interviews.
C'est récent. Il y a des cycles. Il y a des cycles. Avant, c'était Malaparte. Avant, c'était... En ce moment, je suis dans le cycle Barbé. Je vais terminer la princesse martyrisée. Voilà.
Mais votre agence d'architecte fonctionne toujours ?
Alors, elle fonctionne toujours. Comme j'ai le bon goût d'être un patriote sur les 36 collaborateurs que j'ai, je n'ai que deux, trois qui sont en chômage technique. Sinon, on travaille beaucoup en télétravail. C'est pas un cadeau. Hein. On peut pas dire que ce soit très performant. Mais bon, ça permet quand même de continuer l'activité. Et de pas peser, parce que je le vois venir. On sent que beaucoup de citoyens, d'acteurs de l'économie vont se vautrer dans le chômage technique pour faire des économies de masse salariale, d'accord ? Donc, en tout cas, moi, j'en profite pas. Et je pense qu'il nous faut avoir cette conscience républicaine et citoyenne, aussi nous, les employeurs, de ne pas peser davantage sur l'économie nationale, voilà.
Eh bien, je vous souhaite bon courage. Pour une fois, voilà une formule qui est à propos. Merci, Rudy Ricciotti, et portez-vous bien.
Portez-vous bien, Frédéric Taddeï.
Europe 1, Frédéric Taddeï.
Corona, baby. They're the new generation of baby boomers. Corona.
Bonjour, Yael Naïm.
Bonjour, bonjour.
Votre nouvel album, le quatrième, Night Songs, vient de sortir en plein confinement. Vous avez donné le 22 mars un home concert, c'est comme ça qu'on appelle ça hein, maintenant, en direct sur Instagram. C'était comment comme expérience ?
C'était chouette en fait. J'ai eu un trac fou,
ah bon ?
Parce que c'est une perte de repères totale. C'est aussi embarrassant parfois. Et à la fin, c'est... Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est comme si on sort d'un concert. C'est-à-dire que
vraiment... Donc c'est fatigué.
Oui, c'est aussi... C'est pas fatigué, c'est un peu tout à la fois. C'est l'excitation et la fatigue et c'est l'adrénaline là, en fait. Parce que, bon, il y a des gens en vrai et puis il y a des trucs pas techniques, mais voilà. Et tout en sachant qu'il y a le retour du public en moins, donc c'est un peu bizarre.
Ouais.
T'es seul dans une pièce à parler, alors tu vois des réactions, des gens qui réagissent, mais c'est quand même pas pareil.
C'est le grand retour au fond de la musique de chambre, hein, comme au temps de Mozart, mais aujourd'hui le public vous regarde sur un écran et il y a beaucoup d'artistes qui le pratiquent, John Legend, Christine on the Queens, Neil Young, la chanteuse Pink, le violoncelliste Yo-Yo Ma, et vous donc, qui en avez profité. Vous pensez bon, que ça...
En fait, j'ai l'impression que c'est pas... Je disais ça hier, je pense que j'ai l'impression que peu importe les outils, l'art et l'expression artistique va toujours trouver un moyen de s'exprimer. Donc si à un moment on ne peut plus faire de concert, on fera autre chose. Donc ça c'est un des outils qui se présente maintenant et avec lequel on peut s'amuser. Donc peut-être au début un peu de manière maladroite et petit à petit ben, on va comprendre tout ce qu'on peut faire avec et ça va être de plus en plus génial.
Vous pensez que ça va durer ? C'est-à-dire même quand on sortira du confinement, vous aurez envie, vous et pas seulement vous, de continuer de faire des concerts, des home concerts ?
Oui, en fait ce que j'aimerais développer dans le temps, c'est des manières de filmer un peu plus originales, des moments qui sont un peu plus décalés, c'est-à-dire on ne va pas faire un concert dans un jardin, on ne peut pas faire un concert en pleine nuit dehors. C'est-à-dire, on peut, mais c'est plus limité. Donc, oui, c'est un peu sans fin ce qu'on pourrait faire, en fait. Donc, ça donne envie de continuer à développer ça.
Europe 1, 11h30, Frédéric Taddeï.
Comment vous distrayez-vous depuis que le confinement a été instauré ?
Eh bien, en fait, j'ai pas... je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens, surtout quand tu as des enfants et que tu as trouvé un moyen de continuer un peu à travailler de chez toi. C'est que il n'y a pas beaucoup de temps libre, en fait, finalement. Malgré le truc qui courait au début, c'était voilà, une liste de livres à lire, parce que maintenant, on va avoir le temps. Mais je pense que dans beaucoup de corps de métier, on a envie de continuer à faire ou à, je sais pas comment dire, à faire quelque chose. Et en plus, il y a des enfants, donc il y a l'école à la maison. Donc c'est, voilà.
C'est vous qui leur faites l'école ?
Parfois oui, mais David est plus doué pour ça.
David, qui est votre producteur qu'on avait reçu dans Balade avec Angélique Kidjo.
Oui.
Et est-ce qu'il y a des choses que vous faites aujourd'hui que vous n'auriez jamais pensé faire ? On a l'impression qu'on fait beaucoup de premières fois en ce moment, hein, l'expérience étant totalement inédite.
En fait, c'est plus dans la gestion, c'est-à-dire le fait de penser vraiment que ça préoccupe une vraie place, une vraie préoccupation de où est-ce qu'on va acheter de la nourriture, qu'est-ce qu'on va manger, envie de varier malgré que parfois, c'est-à-dire moi j'essaye de pas suivre les consignes, donc de pas sortir, de faire livrer ou de bref. Et donc ça devient une préoccupation alors qu'avant je sautais des repas, je m'en fichais un peu. Dans le bon sens.
On revient
comme un retour à quelque chose de plus simple.
Voilà, on revient aux choses essentielles au fond. On accorde plus de temps à des choses qui en prenaient beaucoup du temps de nos aïeux, mais de moins en moins avec nous.
Oui, oui, oui. Et peut-être le fait de profiter autrement des choses, c'est-à-dire, c'est sûr que de sortir, le fait d'avoir un jardin ou d'être dans un endroit où il y a un peu de nature, bah du coup ça prend beaucoup de valeur. Donc je suis très reconnaissante d'avoir un environnement comme ça. Et puis, peut-être, ça me fait réfléchir aussi à l'après, à la suite. Et moi, en tout cas, personnellement, le fait de voir qu'on peut faire beaucoup de choses. Alors, chaque métier avec ce qu'il va découvrir. Moi, je peux parler qu'au nom de la musique. C'est possible de se déplacer moins, de polluer moins, de dépenser de manière un peu, disons, irresponsable moins. Donc, ça m'amène à réfléchir à la suite, à des bonnes choses à garder pour la suite.
Vous en profitez pour faire quoi ?
Bah, surtout pour profiter de l'air frais. C'est beaucoup ça. Et après, je suis en train de faire une musique de film, donc ça me prend du temps. Il y a beaucoup de mini-activités à titre privé que j'aime faire, comme l'animation, comme peindre. Donc, j'essaie de libérer du temps pour ça. Et puis, surtout, encore une fois, comme j'ai des enfants, bah de passer plus de temps avec eux, mais même si c'est à faire des choses très simples.
Comment le vivent-ils, vos enfants ? C'est toute une génération là, qui aura connu le confinement ouais. Étant petit, qui risque d'en garder des souvenirs comme d'une expérience, j'espère, unique.
Alors, c'est très bizarre. J'imagine que c'est très différent de famille à famille, mais là... Comme ça arrive que je suis en déplacement et tout d'un coup je suis moins en déplacement, ben, ils kiffent, ils aiment bien être à la maison, donc ils kiffent. Donc pour l'instant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de frustration, ils ont envie de voir des amis, de sortir et de faire d'autres choses, donc ça c'est très frustrant. Mais tout d'un coup, ils nous ont 24 sur 24, donc ils sont quand même contents.
Oui, l'instant. Quand ils sont petits, ils aiment bien, c'est qu'en grandissant, ils aiment moins.
C'est vrai, ça peut...
Merci Yael Naïm. Je rappelle que votre album Night Songs vient de sortir. On peut donc l'écouter et le commander en ligne. Hein. C'est quand même un avantage.
Oui, c'est sûr que, disons que dans ce temps où on est restreint, c'est chouette de pouvoir
écouter de la musique, voir des films et que tout soit online, heureusement.
Et de produire donc de l'immatériel. Merci Yael Naïm, à bientôt et faites mes amitiés à David. À bientôt.
Merci, à bientôt.
Une chanson qui parlait du confinement sans le savoir, c'est Face Your Fear de Curtis Harding. Affronte ta peur, ça commence par Tu peux crier si tu veux, ma chérie, mais personne ne t'entendra.
Europe 1, 11h30, Frédéric Taddeï.
You can scream if you want to, baby, but no.
Curtis Harding en 2017 sur l'album Face Your Fear.
Attention, danger. Confinez-vous.
Vite.
Vous êtes contaminé.
Confirmé.
Et j'appelle tout de suite l'avocat Éric Dupond-Moretti, l'auteur du « Droit d'être libre » et de « Ma liberté » aux éditions de l'Aube. Allô, Éric Dupond-Moretti ?
Oui, bonjour Frédéric Taddeï.
Comment vous portez-vous depuis que vous êtes, comme nous tous d'ailleurs, assigné à résidence ?
Je me porte bien, mais c'est une notion relative.
L'assignation voilà. À résidence ou le fait de bien se porter ? L'assignation à résidence, hein, c'est ce qu'ont connu Dominique Strauss-Kahn à New York, Roman Polanski à Gstaad, Carlos Ghosn à New York avant son évasion, ou Patrick Bekkani, que vous avez défendu depuis qu'il est sorti de la prison de la santé. En fait, aujourd'hui, nous sommes tous des Patrick Balkany.
Oui, enfin, on est tous des Patrick Balkany. C'est pas tout à fait pour les mêmes raisons qu'on est confinés.
Non, je le confirme.
Hein, je rappelle quand même que Patrick Balkany, que j'ai défendu, dont j'ai été l'avocat, a reconnu un certain nombre des faits qui lui étaient reprochés.
Ouais.
Il en a contesté d'autres. Nous, on est confinés parce que je crois que c'est une exigence et une nécessité. Mais en même temps, c'est intéressant que vous fassiez le parallèle avec d'autres hommes qui ont eu maille à partir avec la justice et qui ont été confinés, parce que le parallèle, il mérite d'être fait. Comment on appréhende la privation de liberté,
hein,
quelles qu'en soient les causes, d'ailleurs.
Le plus célèbre assigné à résidence de l'histoire, c'est Galilée, hein, qui a été assigné à résidence pendant les 9 dernières années de sa vie.
Ouais. Et il avait pourtant raison.
Et il avait raison, en effet. Mais alors vous, qui êtes un obsédé de la liberté, vous êtes l'auteur du Droit d'être libre, de Ma liberté, aux éditions de l'Aube, comment vivez-vous ça dans votre chair, là, j'entends?
En même temps, c'est difficile, et en même temps, il faut tirer le meilleur de cette situation. Le meilleur de cette situation, c'est qu'on est contraint à l'introspection. Alors l'introspection, évidemment, c'est parfois douloureux, donc c'est une introspection les yeux mi-clos. Mais c'est une introspection quand même. Il faut beaucoup réfléchir, il faut parvenir à s'occuper autrement que par la vacuité. Il ne faut pas se laisser remplir par la vacuité. Et l'une des réflexions, c'est comment va-t-on sortir de cette période, parce qu'il faut être optimiste, et comment va-t-on appréhender les uns et les autres cette privation de liberté qui est aujourd'hui une contrainte indispensable. Est-ce qu'on va accepter de perdre encore plus de notre liberté, parce que je pense que le processus est ancien, ou est-ce qu'on va redécouvrir ce qu'est la privation de liberté? Et donc la liberté, évidemment.
Est-ce que vous vous sentez surveillé?
Surveillé, oui, évidemment, on l'est tous. Il y a des mesures de contrôle, il y a je ne sais combien de procès-verbaux dressés, il y a une vigilance de tous les instants. Bon, en même temps, c'est pas tout à fait la méthode chinoise, et on ne peut que s'en féliciter. Vous avez vu ces images du drone là qui surveille la population, et puis qui rappelle à l'ordre ceux qui n'obéissent pas. Et je pense d'ailleurs qu'il y a eu des condamnations très sévères qui ont été prononcées contre ceux en Chine qui n'obéissaient pas aux injonctions. Nous, c'est quand même plus light, et fort heureusement. Mais peu importe, la privation de liberté, c'est pas le tout ou rien, c'est une petite acceptation aussi, sans qu'on y prenne garde, justement. Et la privation de liberté, c'est comme le bonheur, au fond, pour paraphraser le poète, c'est quand ça disparaît complètement qu'on en mesure la nécessité vitale pour nous.
Yeah.
C'est ça qui est difficile. Moi, la question que je me pose, c'est comment on va sortir de là? Est-ce qu'on va accepter encore davantage ces contrôles, ces mesures? En matière de droit, on est en train de reculer, mais là encore, parce que les tribunaux ne peuvent pas faire face, donc ça n'est pas illégitime. Mais quand on sort de ça, qu'est-ce qu'on fait de tout ça?
Vous savez bien qu'en général, on préfère la sécurité à la liberté. Ce que vous redoutez, c'est que pour avoir plus de sécurité, on sacrifie encore plus de liberté.
Oui, vous connaissez la formule magique de Benjamin Franklin qui dit « Un peuple prêt à abandonner un peu de sa liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux ». Mais ça, c'est un phénomène qu'on connaissait avant le coronavirus, c'est-à-dire que le terrorisme, par exemple, a conduit les gens à accepter un recul de nos libertés. J'ai évoqué au théâtre ce sondage absolument incroyable de gamins, des jeunes gens, enfin nos enfants, qui devraient être épris de liberté, qui disent, alors le sondage c'est Charlie Hebdo ou le Bataclan, ils disent oui mais Charlie, ils l'ont un peu cherché. C'est-à-dire que d'une certaine façon, ils acceptent l'idée de renoncer à une liberté dont je concède qu'elle n'est pas fondamentale, la liberté de blasphémer, mais ils acceptent cette idée de ne plus blasphémer. Et ça, c'est un petit recul. J'avais vu également une émission sur le service public où était invité le ministre de l'Intérieur, M. Castaner, et il y avait un sondage qui était fait pratiquement en même temps, au même moment, et les gens disaient « Mais nous, on accepte d'être placés sous écoute et sous surveillance téléphonique parce qu'on n'a rien fait. » Mais justement, moi, c'est parce que j'ai rien fait que je ne veux pas être surveillé. Et tout est comme ça. Enfin, il y a une espèce d'acceptation au nom d'une sécurité qui est une utopie, en réalité.
Et est-ce que néanmoins vous sortez, vous voyez des gens, vous faites vos courses, vous allez à la pharmacie ?
Mon épicier, quand je vais faire mes courses,
ouais.
Il s'avère que le hasard de la vie fait que je suis confiné seul. Tant qu'il faut que j'aille chercher, il faut aussi penser aux nourritures terrestres. Et donc je vais faire mes courses et je rencontre une caissière de supermarché qui me dit bonjour avec le mètre ou le mètre 50 réglementaire. Et je paye et je rentre chez moi.
Ah oui, c'est la vraie solitude là. Vous téléphonez davantage ?
Oui, bien sûr. Avec des copains, hier, on a fait un club du single malt. C'est une application que je connaissais pas du tout parce que moi je suis pas tellement nouvelle technologie, mais il y a une application qui s'appelle Zoom et on s'est retrouvés les uns et les autres sur le même écran, chacun avec une bouteille de whisky de marques différentes d'ailleurs, mais ça c'est le hasard, et on a bu un coup à notre confinement, voilà.
Et à votre santé par la même occasion.
Et naturellement à notre santé, ça va de soi, oui.
Merci Éric Dupond-Moretti et bon confinement et j'espère à très vite.
À moins d'un mètre de distance, voilà, ce serait plus sympa quand même.
Quel soulagement ce sera.
À bientôt, au revoir.
À bientôt.
One, keep your space. Step two, wash your hands. Step three, don't touch your face. Step four, then do that dance. One, keep your space. Step two, wash your hands. Step three, don't touch your face. Step four, then do that dance.
Allô, bonjour Anne Berest.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de La fille de son père, de Recherche femme parfaite, de Mytho, la série télé avec Marina Hans, qui passe actuellement sur Netflix, et qui commence d'ailleurs un matin par ces mots d'une petite fille: j'ai pas envie d'aller à l'école, et sa mère lui répond: moi non plus, j'ai pas envie d'aller travailler. C'est des choses qu'on n'entend plus hein, depuis le confinement, ça.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Vous parlez de Mytho, et en fait, ça me trouble parce que nous étions en plein tournage de la saison 2 et tout a été
interrompu,
arrêté. Voilà. Donc,
ça a créé un grand vide en vous ?
Ouf. En fait, moi, j'ai écrit la série, hein, donc je n'étais pas sur le tournage. C'est très difficile, en revanche, pour les acteurs, pour le réalisateur, de s'arrêter comme ça du jour au lendemain. Ouais. À ce moment-là, j'avais une pièce de théâtre qui a été arrêtée aussi. Je jouais une pièce qui s'appelle La visite au théâtre du Rond-Point. Et voilà, j'ai appris le même jour qu'on arrêtait la pièce et qu'on arrêtait le tournage. Donc, je dis ça et en même temps, c'est l'ensemble des Français, toute l'Europe, des gens qui sont arrêtés ont tous été très frappés, évidemment. Je ne suis pas la seule.
Vous, normalement, vous êtes quelqu'un qui écrit 8 heures par jour pendant que ses enfants sont à l'école aujourd'hui. Ça a dû beaucoup changer, ça.
Ah oui, je peux. Je travaille, j'écris beaucoup. C'est vrai que comme tous les écrivains, pour nous, on travaille chez nous, on a souvent un bureau à la maison. Donc c'est vrai que le confinement ne change pas ça. Mais en revanche, je travaille de façon beaucoup plus fractionnée, puisqu'il faut s'occuper des enfants.
Ouais.
Donc je travaille. Avant, je travaillais quand les enfants étaient à l'école. Et maintenant, je travaille un peu très tôt le matin avant qu'il se réveille, un peu la nuit. On fait des roulements avec le papa.
Comment vous organisez avec ces enfants ? Comment vous faites ? Comment vous les occupez ? Il y a l'école ? C'est seulement l'école ?
Alors, moi, j'ai deux filles, une de 4 ans, une de 8 ans. Et c'est vrai que les institutrices ont mis en place une sorte de relais extraordinaire par les fils WhatsApp, par Internet. Donc, par exemple, tous les matins, je reçois le programme des institutrices pour la journée.
Hey.
Et donc, j'essaye de suivre leur programme. Parce qu'on ne peut pas s'ingérer. Institutrice, c'est un métier. Hein. On ne s'invente pas institutrice. Donc, heureusement que tous les jours, j'ai le programme. Parce que sinon, je ne sais pas comment je ferais.
Est-ce que les enfants sont contentes de ne pas aller à l'école d'abord et puis que ce soit leur maman qui prenne le relais ?
Ah bah oui, évidemment, ils sont contents. Il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée, j'écoute, je ne sais pas si vous connaissez, c'est sur le site du Théâtre de la Colline, il y a Wajdi Mouawad qui a un journal de confinement tous les jours. C'est très beau, c'est à écouter tous les jours, c'est 12-15 minutes. Et en fait, dans ce premier podcast, il évoque une chose qui m'a beaucoup marquée parce que je l'ai vue avec mes enfants. C'est au début, c'est la joie des enfants devant la catastrophe des adultes. Et ça m'a marquée parce qu'au début, quand j'ai dit aux filles qu'on n'allait plus à l'école, bah évidemment, elles étaient ravies. Et lui, ça lui rappelait la guerre au Liban quand il était petit et que, voilà, pareil, il n'allait pas à l'école, il voyait sa voisine dont il était amoureux, etc. C'est un podcast que je vous conseille parce que Wadi Mouawad est un immense auteur et c'est très beau.
La joie des enfants, donc, devant la catastrophe des adultes. Oui. Est-ce que vous en avez profité pour faire une liste de bonnes résolutions, vous êtes lancé des défis.
Oui, ah, vous êtes renseigné. Hein. J'ai décidé, c'est très bizarre, hein. J'ai décidé d'arrêter de fumer.
Ah, pas mal.
Et maintenant, c'est bizarre parce que c'est étrange de prendre une telle décision alors qu'on est déjà enfermé. Et c'était très difficile, évidemment, pour mon entourage aussi. Et alors, je me suis demandé, mais pourquoi je m'imposais une chose pareille? Et bon, maintenant, ça va faire... au début, je comptais les heures. Hein. Maintenant, je me souviens même plus depuis combien de jours. Ça doit être 14, 15 jours. Et je me suis rendu compte qu'au fond, c'était ma liberté, une forme de liberté que je cherchais au milieu du confinement. Et me prouver ma liberté en réussissant à arrêter le tabac. Voilà. Mais c'est difficile. Hein.
Ouais.
Et
Et une fois le confinement terminé, vous pensez reprendre parce que ce sera votre liberté que de le faire?
J'espère que non. J'espère que non. Et en même temps, peut-être que dans... Non, allez, on va se dire que non, que je ne reprendrai pas, que je serai courageuse.
Est-ce que vous faites vos courses, Anne Berès? Est-ce que vous voyez vos voisins? Est-ce que vous regardez le journal télévisé qui dure deux fois plus longtemps depuis que le monde s'est quasiment arrêté?
Non, parce que je n'ai pas la télévision. En revanche, je me suis abonnée à des journaux. Je me suis abonnée... Je ne m'étais pas abonnée en ligne. Je me suis abonnée au Monde, au JDD, à Libé. Avant, je trouvais toujours un moyen de les trouver au kiosque à droite à gauche. Là, je me suis abonnée.
Mais on peut toujours les trouver au kiosque, hein, je vous rassure. Mais c'est encore mieux si on est abonné.
Ah oui, c'est vrai. Je ne suis même pas sortie jusqu'à un kiosque, je vous avoue. Et je fais très peu les courses. Et dans la répartition des tâches de la maison, les courses ont été attribuées au père des filles. Voilà.
Voilà, c'est pas plus mal.
C'est pas plus mal.
Exactement. Et vous en profitez pour faire quoi, sinon, que vous n'aviez pas le temps de faire?
Bah, beaucoup lire. Beaucoup lire. Ouais. Ça, c'est... Mais bon, beaucoup. Je dis beaucoup. Et en même temps, j'ai l'impression que les journées passent à toute allure. Hein.
Bah oui, avec
deux enfants, avancer le lit, faire les courses. Enfin, non. Attendre que les courses arrivent pour les ranger, selon la répartition des tâches. Ça fait que les journées passent très rapidement. Je peux plus lire qu'avant, mais pas autant que je ne le souhaiterais ou que je ne l'avais imaginé au début du confinement.
Bien, merci Anne Berest.
Je vous remercie.
Je souhaite à vos deux filles un grand amusement, une grande joie devant la catastrophe des adultes. Et un qui avait très bien imaginé le confinement avec des enfants, c'est d'ailleurs Jacques Dutronc dans sa chanson « Fais pas ci, fais pas ça ».
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents. Touche pas ça, fais dodo, dis papa, dis maman. Fais pas ci, fais pas ça, ah tata, prout prout cadet, à cheval sur mon bide. Mets pas tes doigts dans le nez, tu suces encore ton pouce. Qu'est-ce que t'as renversé, ferme les yeux, ouvre la bouche. Pour pas tes ongles vilains, va te laver les mains. Ne traverse pas la rue, sinon pampan tu tues. Fais pas ci, fais pas ça, ah tata, prout prout cadet, à cheval sur mon bide. Laisse ton père travailler, viens donc faire la vaisselle. Arrête de chamailler, réponds quand on t'appelle. Sois poli, dis merci à la dame, laisse ta place. C'est l'heure d'aller au lit, faut pas rater la classe. Fais pas ci, fais pas ça, ah tata, poutre de cadet, à cheval sur mon bide. Tu me fatigues, je n'en peux plus, dis bonjour, dis bonsoir. Ne cours pas dans le couloir, sinon pendant tu. Fais pas ci, fais pas ça, viens ici au toit de là. Prends la porte, sors d'ici, écoute ce qu'on te dit. Fais pas ci, fais pas ça, ah tata, poutre de cadet, à cheval sur mon bide. Tête de mule, tête de bois, tu vas recevoir une bête. Qu'est-ce que t'as fait de mon peigne, je ne le dirai pas de voix. Tu n'es qu'un bon à rien, je le dis pour ton bien. Si tu ne fais rien de meilleur, tu seras meilleur. Fais pas ci, fais pas ça, à tata, poutre de cadet, à cheval sur mon bidet. Vous en faites pas les gars, vous en faites pas les gars. Moi aussi on m'a dit ça. Fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Et j'en suis arrivé là, et j'en suis arrivé là. Et j'en suis arrivé là, la la la. La la la, la la la. La 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 la, la 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 la. La 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 la.
C'était Jacques Dutronc en 1968, encore une chanson prémonitoire. On écoute les infos, on se retrouve juste après pour la suite de notre balade avec un grand cuisinier, c'est Pierre Gagnaire.
Europe 1, Frédéric Taddeï.
On reprend notre balade téléphonique avec un grand chef, le Mozart des fourneaux, c'est Pierre Gagnaire, 18 restaurants à son nom, dont 3 à Paris, 1 à Bordeaux, 1 à Courchevel, 1 à Londres, 2 à Nîmes, 2 à Dubaï, 1 à Las Vegas, tous fermés aujourd'hui. Il doit en rester ouvert à Séoul, à Shanghai, à Tokyo, à Hong Kong et à Da Nang. On l'appelle tout de suite.
Coronavirus. What's happening? Y'all ready? Hey, Wuhan, 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 Wuhan.
Bonjour Pierre Gagnaire.
Oui, bonjour Frédéric.
Comment vous portez-vous et comment supportez-vous ce confinement?
Eh ben écoutez, je supporte avec beaucoup d'interrogations parce que ce que je vis en ce moment me rappelle ce que j'ai vécu à Saint-Étienne il y a 26 ans lorsque j'ai eu le suivi de mon entreprise. Donc là,
vous aviez fait faillite à l'époque avec votre premier restaurant. Hein.
Je l'ai vécu déjà. Là, bon, ben, c'est un moment d'interrogation, forcément. C'est un bon questionnement sur la façon de travailler, sur la suite, quoi.
Il y a un certain nombre de restaurants qui sont encore ouverts à Séoul, à Shanghai, à Tokyo, à Hong Kong, à Da Nang.
Da Nang est fermé, Séoul bricole, Dubaï, Shanghai a fermé 2 mois et rouvrir. Mais on sent bien que quelque part la machine est un peu cassée parce que là j'ai appris ce matin que l'aéroport de Dubaï, qui est un hub incroyablement important et qui vient de fermer. Donc on vit une situation complètement inédite. Alors je n'arrive pas à m'extraire de ma petite condition parce que mes voyages et les engagements que j'ai dans tous ces pays me donnent une espèce de vision un peu globale, mais je panique pas, j'attends et puis j'essaie de gérer au mieux tous les gens qui me font confiance et qui sont dans le monde et qui comptent bien continuer l'aventure à mes côtés, quoi, voilà.
Est-ce que vous faites la cuisine pour passer le temps?
Ah ben, c'est pas pour passer le temps, c'est une obligation. Ça fait partie de... Au moins, je sers à ça. Et donc, effectivement, le hasard fait que je suis avec un de mes fils et sa famille. Donc, je cuisine pour la famille. Et puis, voilà, ce matin, j'ai fait une soupe pour une association. Voilà, modestement, j'essaye d'être utile dans mon petit coin, quoi. Voilà.
Qu'est-ce qui vous manque?
Il ne manque rien. Je suis habitué quand même à une forme de solitude. Non, je vis ça aussi comme une opportunité. Je vis ça comme un... Ben, d'abord, c'est une façon, même si je dors d'un œil, ben, c'est une façon de se reposer, de réfléchir. Il faut aussi saisir ça comme une opportunité, pas être abattu et essayer, en ayant la chance d'avoir une bonne santé et les gens qui m'entourent aussi, eh ben, j'en profite pour faire ce que je fais pas beaucoup, à savoir lire, à savoir peut-être contempler la nature parce qu'il fait, bon ben, il y a un petit soleil qui se lève, même si on est confiné, ben, on profite de ces instants de silence que l'on a autour de soi et en soi-même.
Vous faites vos courses vous-même?
Oui, je le fais, oui, ouais, c'est, ou quelqu'un de ma famille plutôt, voilà, parce que moi je reste plutôt à la maison, effectivement.
Oui. Est-ce qu'il y a des questions que vous posez que vous n'étiez jamais posées?
Non, parce que le métier que je fais, comme je le fais, même si je travaille beaucoup, je vis quand même souvent seul. Donc le questionnement, il est pour moi presque quotidien. Le sens de mon métier, est-ce que je le fais bien? Là, tout de suite, évidemment, y a une responsabilité d'entrepreneur, hein, parce que il y a beaucoup de gens qui déjà espèrent que je reste en bonne santé, et puis les questions elles vont venir peu à peu, parce que ce confinement il est finalement assez récent, parce que aujourd'hui finalement à moins d'être dans la tourmente de la maladie ou de la tourmente de ceux qui sont sur le terrain en ligne numéro un, mais c'est l'après. Qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que notre société va changer? Est-ce que les gens vivront différemment? Est-ce que l'avenir c'est d'avoir du PQ et des spaghettis dans son placard, quoi, voilà.
ça pourrait être ça, effectivement, vous avez raison.
On est mal parti, hein. On est très mal parti.
Est-ce que vous êtes confiné avec votre femme, Sylvie Le Bihan, qui est l'auteur de Là où s'arrête la terre, de Qu'il emporte mon secret ou d'Amour propre?
Eh bien, hélas, non, parce que le hasard a fait que moi j'avais prévu de passer quelques jours avec un de mes fils, et donc quand même le conflit a réussi à nous réunir, on est séparés, et en fait je suis avec un de mes fils et sa famille, voilà.
D'accord, et elle est de son côté.
Et de son côté, voilà, donc même cette histoire n'aura pas réussi à nous réunir. Voilà.
Bah écoutez, je vais l'appeler pour voir comment ça se passe.
Je vous laisse de ma part.
D'accord, je l'embrasse de votre part. Merci Pierre Gagnère.
Au revoir, Frédéric.
Portez-vous bien et à très bientôt.
À bientôt, au revoir Frédéric, au revoir.
Again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.
Allô, Sylvie Le Bihan?
Oui, bonjour Frédéric.
Comment allez-vous? Je viens d'avoir votre mari au téléphone, il vous embrasse.
Bah oui, je sais, on a à deux jours frais, on s'est retrouvés séparés tous les deux.
Oui.
Donc c'est pas terrible, mais bon, voilà.
Oui, comment vivez-vous ce confinement alors?
Bah moi, il se trouve que j'étais en week-end à la campagne et que j'étais avec mes enfants, et puis on a été surpris par l'annonce de d'Emmanuel Macron, donc je me suis retrouvée pas coincée, parce que c'est pas être coincée que d'être à la campagne, hein, c'est Je suis heureuse d'être là, sauf que j'ai un de mes fils qui est resté à Paris, qui a pas pu nous rejoindre. Donc on est tous un peu disséminés partout. Je le vis plutôt bien parce que je suis quelqu'un d'assez solitaire et le confinement c'est un peu mon mode de vie.
Oui, et puis dans votre dernier roman Amour propre, vous racontiez l'histoire d'une femme qui quitte ses trois enfants pour oublier la mère qu'elle est devenue et retrouver la femme qu'elle n'est plus. Alors,
oui, dans la Casa Malaparte, dans la Villa Malaparte à Capri, donc qui est vraiment une cellule, quoi.
Oui.
Donc
vous êtes
entraînée. Mais là, c'est le contraire. J'ai deux enfants sur trois avec moi. Et puis, j'ai une jeune femme, une jeune fille espagnole qui est avec moi aussi, qui est une copine de ma fille, et qui était là pour une semaine à Paris, qui s'est retrouvée coincée avec nous. Voilà.
Comment vous occupez-vous?
Alors, j'avais des fonds de pot de peinture, donc je peins. J'arrive pas à écrire une ligne, mais je crois que c'est le cas de beaucoup d'auteurs. J'arrive pas à lire non plus, donc je peins, je fais des courses pour mes voisins.
Vous peignez vos volets?
Parce que mes voisins sont âgés. Je repars mes volets, j'en suis à la 40e couche de volets parce que je suis pas très douée.
Quelqu'un nous en parlait tout à l'heure en disant qu'il y a des tas de gens qui se remettent à peindre leurs volets.
Ah bah il y a que ça à faire, hein. Et puis là j'ai eu l'impression d'aller acheter de la drogue il y a deux jours parce que j'ai appris que en passant une commande dans mon supermarché d'à côté, je pouvais aussi passer une commande de peinture d'un magasin de bricolage. Donc je suis allée chercher mes pots de peinture en même temps que mes courses. J'avais l'impression d'avoir de la contrebande, mais je suis ravie. Et puis mes parents ont découvert FaceTime. Donc je parle avec les narines et les oreilles de mes parents parce qu'ils n'ont pas encore compris qu'il y avait une caméra. Donc voilà, je pense qu'à la fin du confinement, ils auront compris qu'il y a une caméra et qu'il faut parler devant. Mais j'aurais bien aimé être avec eux aussi puisque mon père a 90 ans, mais c'était trop dangereux. Et là, bah moi, toutes les méthodes, toutes les mesures de protection, ça fait des semaines que je les prends. Donc, j'ai pas changé mes habitudes. J'aide mes voisins qui sont un peu âgés à aller faire les courses. Voilà, j'essaie de faire ce que je peux, quoi. Et puis, je m'occupe, quoi, comme je peux. Voilà. Qu'est-ce qui me manque? La Wi-Fi. Parce qu'on a très peu de Wi-Fi. Et puis, de voir des gens dans la rue, l'interaction sociale me manque beaucoup. Les restaurants me manquent beaucoup. d'aller voir les équipes, d'aller les saluer, de prendre un petit café, de voir les clients.
Ah oui, ce sont vos restaurants qui vous manquent beaucoup, pas forcément les restaurants des autres.
Oui, c'est ça, ouais, c'est mes restaurants qui... Non, mais les restaurants des autres aussi, parce que aller prendre un café avec des copains, enfin, voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des gens dont on n'a pas entendu parler depuis 15 ans qui vous appellent... on a l'impression qu'ils sont à la fin du répertoire. Donc ça, c'est assez bizarre. Bon, et finalement, on n'a pas grand-chose à se dire.
Vous-même, mais, vous téléphonez davantage?
Non, puis je ne réponds pas trop non plus, parce que je suis concentrée sur ce que je fais, et puis parce que je trouve que il y a trop d'appels, quoi, en fait.
Ouais.
Et ça me fatigue. Bon, à part Pierre, quand il m'appelle, évidemment. Non, mais c'est ballot, parce qu'on était vraiment à 24 heures près, on aurait pu être ensemble. Mais comme on ne se voit pas beaucoup déjà pendant l'année, parce qu'il travaille beaucoup, ça aurait été le moyen de se connaître.
C'est vrai, depuis le temps que vous êtes mariés, ça valait peut-être le coup.
On aurait eu l'impression d'être coincé avec une date Tinder.
est-ce que vous allez à la pharmacie? Est-ce que vous stockez? Est-ce que vous êtes un peu angoissé?
Non, je suis pas du tout angoissée. Je fais attention aux autres. Alors, je suis partie faire mes courses avec des gants MAPA parce que j'ai pas de gants. Je suis pas du tout équipée, quoi. Donc j'ai un masque de bricolage et des gants MAPA.
Vous n'êtes pas la seule. Je crois que c'est le cas de la plupart des Français.
Bah c'est ça. Et puis je suis allée à la pharmacie une ou deux fois pour acheter parce que j'avais un début de crève, donc j'ai eu un peu peur, mais ça va. Mais sinon, les supermarchés sont vides à la campagne parce que... Puis les gens respectent vachement les mesures de protection, vachement les distances. Enfin, moi, je suis étonnée, quoi. Les caissières sont derrière des vitres, elles ont des masques, elles ont des gants. Enfin, tout est vraiment fait pour que les mesures soient respectées. J'ai été contrôlée une fois par la gendarmerie.
Ils vous ont lâché?
Mais à la fin, ils m'ont dit « Mais vous savez que... Quel est le... Faudrait que vous rentriez chez vous parce que vous savez quel est le taux de mortalité chez les plus de 75 ans. » Et là, je me suis dit « Mais il avait ma carte d'identité. » Je me suis dit « Mince. » Et en fait, non, ce qu'ils voulaient dire, c'était que j'étais un danger potentiel pour les personnes âgées.
Ah, ouf.
Évidemment, au début, on le prend un peu pour soi, quoi. Donc, comme les chirurgiens esthétiques sont fermés, pas beaucoup de recours. Mais écoutez, sinon, mon fils qui est tout seul à Paris, évidemment, ça me fait de la peine. Je pense beaucoup à des amis qui sont coincés à Paris aussi, ou dans des grandes villes, mes parents qui sont coincés dans leur appartement. Voilà, quoi, je me sens... Alors évidemment, je me sens un peu... Alors je suis pas partie au moment du confinement, c'est-à-dire j'ai pas fait mes valises et je suis partie puisque j'étais en week-end.
Donc vous serez pas jugé à la libération.
Non, alors j'ai relu Les Faux Fuyants de Françoise Sagan, qui est assez drôle et qui parle justement de l'exode de Parisiens à la campagne, ce qui m'a fait beaucoup rire. Moi je mets personne en danger dans la mesure où c'est une maison qui est isolée. J'ai des voisins proches, mais ça faisait déjà trois semaines que j'évitais de les voir. Puis oui, les distances sont très bien respectées. Puis dans mon coin, il n'y a pas un seul cas. Donc on est encore bien protégés, quoi.
Est-ce que vous avez du papier toilette en quantité suffisante? Il paraît qu'on commence à en manquer.
Non, je stocke pas, moi. J'ai ce qu'il faut, quoi. Mais j'ai pas tendance à stocker, moi. Mon frigo, il est toujours vide. Alors, c'est ça, le drame de pas être confinée avec mon mari aussi. C'est que c'est moi qui fais à manger.
Ah oui.
Donc, et comme j'aime pas ça, c'est vrai que je crois que les enfants, c'est une double peine, quoi.
Oui.
Voilà. Mais non, je stocke pas. J'achète assez pour 5-6 jours. Je sors une fois par semaine. Mais je stocke pas, non.
Ben merci Sylvie Le Bihan. On va écouter tout de suite une autre chanson prémonitoire. C'est We'll Be Together Again, un tube des années 40-50, ici interprété par Billie Holiday. C'est pour tous les amoureux séparés par le confinement. Ça commence comme ça. Pas de larmes, n'aie pas peur. Souviens-toi qu'il y aura toujours des lendemains. On sera ensemble de nouveau. Je vous embrasse, à bientôt.
Moi aussi, au revoir.
No tears. No fears. Remember, there's always tomorrow. So what if we have to part? We'll be together again. Your kiss, your smile. pleasure forever. So try thinking with your heart. We'll be together again. Times when I know you'll be lonesome. Times when I know you'll be sad. Don't let temptation surround you. Don't let the blues make you bad. Someday, some way, we both have a lifetime before us. For parting is not goodbye. We'll be together again.
Chanté par Billie Holiday, et le saxophone capiteux que vous venez d'entendre, c'est celui de Ben Webster.
Allez, faites pas les malins, hermétiquement bouclés.
Bouclés.
Bien enfermés.
Fermés.
Stérilisés, 300 degrés de pâte. À déguster pour tant de vaches maigres à venir.
Affirmatif.
Et pour terminer cette balade téléphonique, j'appelle Fabrice Midal, il est philosophe, c'est le fondateur de l'école occidentale de méditation, c'est l'auteur de « Foutez-vous la paix et commencez à vivre », de « Sauvez votre peau, devenez narcissique » et de « 3 minutes de philosophie pour redevenir humain » qui vient de paraître chez Flammarion. Allô Fabrice Midal, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vos propres conseils vous sont utiles pour traverser cette période sans précédent ?
Non seulement ils me sont utiles, mais je dirais même que c'est ceux que je donne, c'est ceux que j'ai pu éprouver et qui m'ont aidé, parce que je suis passé par les difficultés, en particulier la difficulté à faire l'expérience de ce qui se passe, d'être un peu perdu, d'être un peu déboussolé. Donc, tout à fait.
Quand vous avez envie de sortir, vous faites quoi ?
J'ai pas trop envie de sortir, donc je n'ai pas trop ce problème-là.
Oui. Le silence ne vous dérange pas ?
Le silence ne me dérange pas. Ce qui est le plus difficile, c'est de sentir toute la souffrance qu'il y a partout. c'est de sentir le désarroi et la souffrance. Je pense que c'est d'abord ça qui est la grande épreuve pour moi.
Alors, il y a ceux qui souffrent de la solitude et ceux qui, au contraire, souffrent d'être serrés les uns contre les autres. Vous, vous êtes dans quelle partie ?
Ben, moi, je souffre ni de la solitude. Moi, je souffre pas de la solitude, puisqu'au fond, depuis longtemps, je l'ai apprivoisé, la solitude. Et que je trouve, comme dit Rilke, que c'est la chance pour un être humain que d'habiter la solitude. Mais ce dont je souffre, donc c'est ni l'un ni l'autre. Moi, ce dont je souffre, c'est d'abord de n'avoir rien compris à la situation, d'être complètement perdu par des annonces qui n'ont pas beaucoup de sens qu'a fait le gouvernement. Donc ça, je voilà, c'est ça qui d'abord
a créé
qu'on doive aller voter alors que on est dans une situation de telle souffrance, qu'on nous dise qu'il faut voter, qu'on nous dise après qu'on n'a pas besoin de porter des masques quand on sort de chez nous alors que l'OMS dit le contraire. Enfin, plein de choses comme ça. Les chiffres qu'on nous annonce mais qui correspondent pas du tout aux gens qui sont atteints, arriver à comprendre que les morts, c'est uniquement les morts qui sont à l'hôpital, ça ne compte pas un certain nombre, enfin plein de choses qu'on commence à discerner et que certains d'entre vous nous aident à discerner, mais d'abord c'est le manque de compréhension de la situation, est-ce qu'elle est grave, est-ce qu'elle n'est pas grave, dans quelle mesure, et puis moi la chose la plus difficile c'est ça, c'est d'abord de ne pas comprendre, et de réussir à rentrer en rapport à la douleur de la situation.
Est-ce que vous souffrez de l'ennui ?
Alors, pas du tout. L'ennui, la solitude, non. Mais pour quelqu'un qui écrit et qui lit, c'est un monde plein. Donc, je relis nombre d'auteurs, nombre de philosophes dont la lecture m'aide profondément. Je relis le concept de l'angoisse de Kierkegaard, je relis Camus, et je trouve que ça fait un bien fou.
Je rappelais que vous êtes le fondateur de l'école occidentale de méditation. Alors, est-ce que vous pratiquez la méditation en ce moment ?
Oui, je pratique la méditation. Alors, j'ai toujours gêné quand on parle de méditation, puisque partout, on a développé cette idée d'une méditation pour être zen, pour gérer son stress, pour être calme, qui est absolument horrible. Et je pense que ça ne peut pas du tout aider les gens. Il ne s'agit pas d'être zen, il s'agit d'entrer en rapport à ce qui se passe. La méditation m'aide à pleurer. La méditation m'aide à sentir ce que je sens, elle m'aide à sentir la peur, elle m'aide à sentir la colère, elle m'aide à sentir la panique. Et en entrant en rapport à ce que, dans la stupidité, on appelle les émotions négatives, comme s'il y avait des émotions négatives et des émotions positives, ce qui est quand même mais d'un niveau tellement puéril de compréhension de l'existence humaine, en fait, en entrant en rapport à ce qui nous arrive pour de bon, en habitant notre expérience, alors on peut la transformer, la voir qu'elle se métamorphose. Donc oui, donc c'est plutôt ça. C'est pour ça que je disais, c'est pas une boutade que je relis le concept de l'angoisse de Kierkegaard, et ça me fait un bien fou, parce que pouvoir sentir ce qui est ouvert dans ce qu'on appelle, dans ce qui est douloureux, voilà ce que je crois de salutaire. Et là, de ce point de vue-là, donc la méditation m'aide beaucoup, mais la philosophie m'aide beaucoup. Et je passe pas mal de temps à relire des textes de philosophie. Et puis j'ai commencé à mettre sur ma page Facebook et YouTube des petites séquences de philosophie au temps du confinement, parce que je trouve que ça aide à sortir des conseils qu'on nous donne un peu béat et un peu niais, qui dénient l'ampleur de notre expérience. Et j'ai l'impression que c'est en respectant l'ampleur, la gravité de notre expérience, que ça peut aller mieux. Alors évidemment, ça passe par plein de phases différentes pour chacun d'entre nous. Et il y a des moments de lien, il y a des moments de joie, et puis il y a des moments de peur. Et je crois que c'est important de faire l'expérience de l'ensemble de ce que l'on vit. Et je crois que c'est ça que peut nous aider aussi à comprendre la philosophie.
Est-ce qu'on est libre ou pas en ce moment, à votre avis ?
J'allais dire, c'est marrant que vous parliez de ça, parce que j'ai aussi pas mal relu Sartre, qui dit de la liberté, et j'y pense beaucoup. Et Sartre, vous savez, c'est un des penseurs qui a le plus pensé la liberté, et de manière très radicale, en pensant que être libre, c'est prendre le risque de ne pas être sûr, de ne pas savoir, de ne pas être certain.
Oui, il avait dit qu'on n'avait jamais été aussi libre que pendant l'occupation, ce qui avait choqué beaucoup de gens, mais d'un point de vue philosophique, ça se défendait. On avait la liberté de faire des choix.
Oui, la liberté de savoir, voilà, de faire un choix, de savoir qu'est-ce qui est important pour nous. Il raconte que quelqu'un avait été le voir, son frère était mort sur le front, son père était devenu collabo, lui devait s'occuper de sa mère et lui demande est-ce qu'il faut que je m'engage dans la résistance ou que je reste avec ma mère. Et j'ai demandé à des prêtres, mais tout est convenu, des sages, mais tout est convenu, je savais que vous me diriez quelque chose de vrai. Et Sartre ne lui a pas dit ce qu'il devait faire, mais lui a dit que de toute manière, il devait prendre un choix, il devait faire un choix. Et c'était ça l'expérience de la liberté. Et donc je pense qu'on peut trouver une expérience de liberté aujourd'hui en sachant ce qu'on veut, en sachant ce qui est vrai pour nous, en étant en rapport à ce qui est le plus vrai, en ne trichant pas sur son expérience, en ne trichant pas sur les difficultés qui sont les nôtres. Au fond, en devenant sincère, on peut trouver une expérience de liberté. On n'est pas libre parce qu'on peut sortir de chez soi et faire ce qu'on veut. On est libre parce que ce qu'on fait est en accord profond avec ce que l'on est. Et on peut trouver des manières d'être libre dans cette situation-là. Mais là, ça a à voir aussi avec repenser complètement l'expérience de la solitude.
Merci Fabrice Midal. Portez-vous bien et j'espère à bientôt.
Merci beaucoup.
Voilà, En balade avec un téléphone se termine. Merci de nous avoir suivis. Passez un très bon dimanche et rendez-vous dimanche prochain à 11h.
Hey, hey, confiné, oh, shh, confiné, oh, pff, confiné, oh, pff, confiné, oh, shit, confiné, je sais pas comment je vais continuer, oh, pff, confiné, plus de Thomas, plus de ciné.